trop chaud. Pas bouger.
Bon été sur Radio Sarfé.
On va finir en beauté cette saison des estivales de Saint-Fé avec trois épisodes, extraits du podcast de Blast intitulé « Invisibles », signé Charlie Delbois. Les invisibles, ce sont les travailleurs et travailleuses du nettoyage, de la logistique, du bâtiment, du soin. Des métiers étiquetés essentiels. Vous vous rappelez pendant le Covid ? Applaudissements aux fenêtres à 20h. Applaudissements, cadence, SMIC. Corps cassé, journées tronçonnées, des métiers qui emploient beaucoup de femmes et de personnes racisées, parfois sans papier, des métiers indispensables et pourtant peu valorisés. Ça semble paradoxal, mais c'est la condition pour que se perpétue un système économique malade et c'est ce que dénonce Charlie Delbois tout au long de sa série. En cette fin de période estivale, on vous propose une escale dans le quotidien de celles et de ceux qui font le ménage dans les transports. Si vous avez eu l'occasion de partir en vacances, vous aurez sans doute apprécié la propreté des trains, des bateaux, des avions dans lesquels vous avez posé vos fesses. Hier, on est monté dans le train. Aujourd'hui, on embarque sur les ferries et demain, même heure, direction le tarmac de Roissy. Bonne écoute.
Les podcasts de Blast.
Vous ne comprenez pas à quel point il y a des métiers difficiles. Qui d'entre vous a déjà fait un métier pénible?
C'est un peu la course à celui qui fait la cabine le plus rapidement, on va dire.
Les métiers du nettoyage, en particulier sur les ferries, sont des métiers qui sont extrêmement engageants.
C'est très exigeant quand même comme travail. Et pourtant, c'est peu valorisé.
Marie-Lou et moi restons collés l'une à l'autre, en essayant de ne pas commettre d'impair. Vous deux, là, vous allez faire les sani. C'est le premier mot que j'apprends à bord. Sani veut dire sanitaire, qui lui-même signifie toilette. Faire les sani, c'est laver les toilettes, tâche majoritaire à bord et exclusivement féminine. Les hommes passent l'aspirateur, l'autolaveuse, nettoient les restaurants ou les bars, dressent les couchettes pour les traversées de nuit. Jamais ils ne frottent la cuvette des WC. Aujourd'hui, donc, nous allons être formés au sani des cabines passagers. Morissette nous met dans les mains un panier en plastique avec deux pulvérisateurs et une vingtaine de chiffons, puis nous entraîne en courant dans le premier des interminables couloirs du ferry, si étroit qu'il faut se plaquer contre la paroi lorsqu'on se croise. Les cabines sont d'un seul côté, environ tous les 2 mètres. Morissette ouvre la porte de la première et se précipite dans l'espace minuscule où s'imbriquent 4 couchettes superposées et un cagibit comprenant lui-même un lavabo, une douche et des WC. Elle se jette à terre, si brusquement, que je pense d'abord qu'elle a trébuché. Je veux la relever, mais sans même un coup d'œil derrière elle, elle s'ébroue pour me repousser et à genoux sur le carrelage, se met à tout asperger avec le pulvérisateur, du sol au plafond. Puis, toujours accroupie, elle chiffonne, sèche, désinfecte, astique, change le papier toilette et les poubelles, remet des savonnettes et des gobelets en une rangée impeccable au-dessus du lavabo. Tout a duré moins de 3 minutes. C'est le temps imparti pour cette tâche. Les bras et les jambes se croisent au millimètre près. Le drap s'envole au ras des têtes sans les frôler, à un rythme parfait, que la frénésie déployée par chacun dans sa tâche et l'étroitesse des lieux rendent particulièrement spectaculaire. En un quart d'heure, mes genoux ont doublé de volume. Mes bras sont dévorés de fourmis et j'écume de chaleur dans le pull que j'avais cru prudent de garder. Je n'arrête pas de me cogner dans les gens, les meubles. Je ne suis pas loin d'éborgner une collègue avec un pulvérisateur pendant qu'elle fait les bannettes. Elle ne se trouble pas. Moi, le mot où j'ai débuté, j'avais des crampes dans tout le corps. J'ai perdu au moins 6 kilos.
Vous venez d'entendre un extrait de Quai d'Ouistreham. Depuis sa parution, en 2010, le travail des agents et agentes de nettoyage dans les ferries reste largement invisible, que ce soit dans la recherche ou dans les médias. Sur le terrain, les refus de témoigner ont été nombreux. On peut imaginer la peur de perdre son emploi, de dénoncer un employeur dont on dépend, ou simplement la barrière de la langue. Contrairement aux travailleuses du quai d'Ouistreham, employées à quai via des entreprises de sous-traitance, les deux personnes que vous allez entendre étaient employées à bord des ferries pour faire le nettoyage comme saisonniers. Elles ont accepté de témoigner parce qu'elles sont sorties de ce métier.
Mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît, nous informons les passagers qui désirent à l'installation que des cabines sont disponibles à la réception sous numéro 4. Vous pouvez aussi améliorer votre installation sur une cabine de catégorie supérieure avec le bus de
Pierre-Mère. Je m'appelle Lauria et j'ai 34 ans. Moi, je travaillais pour la compagnie Corsica Linea. C'est grâce à une amie qui avait un plan, elle avait l'idée de travailler sur les bateaux et du coup elle nous a dit venez postuler avec moi et on a postulé comme ça. Moi je connaissais pas du tout le métier de ce métier et ce domaine-là.
Je m'appelle Adrien et j'ai 34 ans. Moi je me suis retrouvé à travailler sur les ferries pour les saisons et j'ai eu le plan par une amie proche. Qui m'en a parlé et j'ai postulé et j'ai été recruté comme ça.
Mes premières semaines, elles se sont passées à quai et donc tu fais de la corvée, c'est-à-dire que tu travailles la journée, tu commences à 7h du matin et tu finis, je ne sais plus, vers 17h en fonction du travail qui était proposé dans la journée. Puis après, j'ai pu embarquer. Et là, tu es embarquant, tu fais le même travail mais sur le bateau.
Le commandant et son équipage sont heureux de vous accueillir à bord d'Agaleota. Nous allons vous indiquer les consignes de sécurité à respecter à bord de ce navire. Et vous demandons de regarder attentivement cette démonstration.
Mes premiers pas vraiment à bord, je me rappelle, donc c'était le début de la saison, on avait montré très vaguement notre secteur dans le bateau. Premier jour, à 21h, on n'avait toujours pas terminé. Il y a plein de choses implicites en fait qu'on apprend sur le tas. Collègues plus expérimentés, ils se moquaient de nous en se disant « vous allez voir ce que vous allez voir là, vous allez découvrir des dingueries ». Et donc là, il y a tout un tas de rumeurs sur ce qu'on va trouver dans les cabines. Il y a une phrase qui revient souvent à bord aussi quand on croise les gens, parce que dans le bateau, il faut imaginer qu'on tourne en rond en fait, toute la journée, on croise toutes les mêmes personnes. Alors, ça te plaît la vie de marin ? L'idée c'est, en fait, tu croyais quoi en fait ? T'es à bord, tu fais des chiottes et c'est ça la vie de marin et la navigation, en fait, on n'entend pas parler.
Quand tu fais du nettoyage de cabine, tu as un secteur de cabine qui t'est attribué. À chaque fois que tu embarques ou que tu débarques, il faut que ce secteur soit nettoyé. Donc c'est des timings qui sont assez serrés des fois parce que le temps de débarquement il est court. Tu as un chariot, à l'intérieur tu as tout ton nécessaire pour réaliser ta cabine. T'as, en général une cabine c'est 4 lits, 4 bannettes. Pas des lits, c'est des bannettes. Et donc, il faut que tu fasses les bannettes et que tu fasses l'entretien général. Donc, sortir les poubelles, sortir le sale, les hublots, la poussière, les plaintes, l'aspirateur. Et surtout qu'à la fin de certaines périodes, il y a le maître d'hôtel qui vient vérifier ton nettoyage.
Petit à petit, en fait, on prend le pli. Déjà le pli physique parce que c'est un métier qui consiste à soulever des choses assez lourdes, à le faire de manière très répétée, le chariot qu'il faut pousser quand il est rempli de linge, je sais pas, il doit faire peut-être une centaine de kilos, donc il y a vraiment un coût physique à passer. Et puis il y a aussi tout un ensemble de techniques pour être de plus en plus efficace. Ça, c'était assez incroyable, les concours d'anecdotes et de partage de méthodes en fait sur les manières de faire, parce que en fait les collègues qui sont vraiment très très efficaces se rendent compte que c'est vraiment des sortes de champions et de championnes du nettoyage. Mais surtout, moi, ce qui m'avait impressionné, c'était une sorte manière de faire qui était presque de l'ordre du réflexe, en fait, où il rentrait et il faisait trois choses en même temps. C'est-à-dire qu'en même temps, il rentrait des choses, il tirait le linge, il soulevait les matelas, il tenait avec le pied dans un coin les serviettes, de l'autre côté, il jetait le drap au millimètre près pour qu'il n'y ait même pas besoin de l'embrailler, en fait, en remettant le matelas. C'est vraiment très impressionnant et ça fait que ça fait des différences énormes, en fait, dans le temps de travail, parce qu'en fait, on est en totale autonomie.
En combien de temps tu fais une cabine? Et à chaque fois, on y allait de nos... Ah non, moi, je mets un quart d'heure pour faire une cabine. Ah non, moi, je mets 5 minutes. Enfin, c'était un peu la course à celui qui fait la cabine le plus rapidement, on va dire. Si la mer, elle est mauvaise, tu vas mettre beaucoup plus de temps à faire tes 10 cabines que si la mer, elle est bonne, quoi. Des fois, tu as une cabine, tu arrives et il y a les lits, il y en a qu'un qui a été occupé. Par rapport à une cabine où tu arrives et 4 manettes occupées, que tu dois tout changer, où la salle de bain est dans un état impraticable, qu'il y a 3 sacs de poubelle. Une fois, je travaillais au luxe, on appelait ça, c'était les cabines un peu plus sympas, où elles étaient plus grandes, avec genre un peu une suite parentale. Et il y avait eu des chats dans la cabine, et donc la salle de bain, c'était une litière. Et donc c'était très compliqué d'enlever toute la litière de la salle de bain, quoi. J'aime, c'est beaucoup de temps. Après, des fois, j'ai retrouvé des poulets mangés. Du coup, il y avait des os partout, même dans les draps. Donc, du coup, tu rentres et t'as les poubelles, la bouffe, les couches. Ça sent fort, quoi.
Donc, en gros, c'est le principe du fini-parti. C'est-à-dire que quand t'as terminé ton nombre de cabines, ben c'est bon, tu peux aller faire la sieste et tu auras juste l'heure de surveillance de l'accueil que tu dois faire et qui est inscrite sur le planning. Mais à part ça, tu gères ton temps comme tu l'entends. L'autre moment contraint dans ton temps de travail, c'est les temps d'embarquement, où là, effectivement, tu dois donc accueillir les passagers, leur indiquer où se trouve leur cabine, éventuellement les aider à soulever la valise, etc. Ça, t'as pas la main sur ce temps-là, puisque tout dépend du nombre de passagers, de la façon dont l'embarquement se passe, et sachant que ça peut aller de pas 1 à 2 heures dans le si ça se passe vraiment très très bien et qu'il n'y a pas beaucoup de monde, à plus de 7-8 heures, voire plus dans le pire des cas, quand les passagers arrivent au compte-gouttes parce qu'il y a des problèmes avec la douane, parce qu'il y a des problèmes sur le port. Enfin, il y a tout un tas d'imprévus aussi qui peuvent faire que le chargement du bateau est très très long. Et donc toi, pendant ce temps-là, ben, t'es debout et tu aides les passagers.
En général, tu croises les passagers régulièrement. Tu passes dans le secteur, tu vérifies tes cabines, donc ils te voient nettoyer, et donc tu parles avec les usagers. Après, ils en profitent pour te demander ce qui manque dans leur cabine, ou des questions, par exemple, où c'est qu'on peut trouver ça, où c'est que je peux aller manger, voilà. Mais sinon, dans l'ensemble, les gens, ils étaient assez respectueux. En général, c'était quand même des moments de vacances, donc c'était plutôt sympathique dans les échanges, on va dire.
Je me rappelle avoir déjà dû finir quand il y a des passagers qui étaient en train d'embarquer parce que j'étais en retard. Et là, effectivement, ça devient très stressant parce qu'ils sont en train d'attendre la cabine. Il y a même déjà des passagers qui sont rentrés dans une cabine en venant me voir en disant « mais elle a été mal faite, etc. » En fait, quand j'allais voir la cabine, il n'y avait aucun lit de fée, les serviettes étaient sales. Enfin, c'était pas que le ménage était mal fait, c'était juste que c'était pas encore fait, en fait.
À la fin d'une saison, tu maigris déjà. Parce que c'est le rythme, il est intense. Tu peux avoir mal au dos. Il y a beaucoup de monde qui passe chez le médecin pendant l'embarquement. Selon quand tu fais trop de cabines, t'as mal aux mains. Tu peux te faire mal aux doigts. Enfin, un accident, ça peut vite arriver dans un bateau quand même. C'est vrai qu'on fait beaucoup attention. Enfin, ils nous disent de beaucoup faire attention à ta sécurité. Mais c'est vrai que ça peut vite arriver. Plus le rythme de travail qui est quand même aussi irrégulier.
Alors je me rappelle si d'une fois quand même où on avait eu une discussion, c'était sur la question du travail, où en gros les chefs de service nous avaient réunis pour faire un peu de prévention sur les accidents, etc. Mais bon, je me rappelle que c'était très lunaire et que ça reflétait pas du tout ce qu'on pouvait faire. Donc en particulier, ils nous disaient qu'en gros le produit toxique qu'on utilisait était toxique, mais c'était le produit qu'on utilisait, donc il n'y avait pas vraiment d'alternative. En gros, on est en plein été, donc entre Marseille et Alger, donc ça peut être aussi en des temps de canicule, il fait très très chaud, autour de 40 degrés. Mais à l'intérieur du bateau, en fait, on est en clim perpétuel. Alors déjà, ça fait que j'ai l'impression que les virus circulent énormément et qu'on a souvent la crève tout le long de l'été. Et on travaille avec la polaire, tellement la clim est forte. Et du coup, le passage aussi entre les ponts extérieurs et l'intérieur des cabines faisait qu'on tombait souvent malade. Et moi, je me rappelle avoir quasiment une angine perpétuelle pendant une saison.
Tu vis dans le bateau, tu manges bateau, tu dors bateau. Enfin, tu penses qu'à ça, quoi. Tu penses que à tes cabines, à comment tu vas nettoyer, comment tu vas faire pour aller plus vite. Et c'est vrai que c'est engageant quand même, au moins pendant cette période-là.
Alors le fait de vivre là où on travaille, la contrepartie, c'est qu'on est aussi toujours sous la main des chefs. Je me rappelle m'être fait réveiller en toquant très très fort sur ma porte. J'avais raté le réveil, je me suis rendu compte qu'effectivement il était l'heure. Mais en fait, j'étais tellement fatigué que voilà, je dormais très très profondément, je ne l'avais pas entendu. Donc le temps de m'habiller, de fermer la porte, j'avais descendu 3 marches et j'étais littéralement en train de travailler 1 minute après mon réveil. Le moindre petit créneau de repos, ça se traduisait en sieste. En fait, je me rappelle, on s'endormait systématiquement en 1 seconde parce qu'on était trop fatigué. Il y a un côté vraiment disponible tout de suite et tout le temps.
Quand tu bosses sur la mer, c'est des beaux moments quand même. C'est vrai que l'environnement, il impacte beaucoup quand même. Même si t'es dans un bateau que tu sors pratiquement pas, mais des fois tu vas sur le pont et tu dis « Ah ouais, ouais, c'est immense quand même, t'es sur la mer, quoi ». Même si tu fais des cabines un peu, que c'est un peu compliqué, des fois tu vas regarder le hublot et tu vas voir un truc, un beau paysage, quoi. Enfin, une belle perspective, en tout cas.
La vie à bord, ça consiste quand même à se couper du reste du monde pour se consacrer à son travail, avec peu de temps à soi, et sur ce peu de temps, en fait, aussi peu de possibilités d'appeler ou de contacter ses proches. Moi, je voyais les gens qui travaillaient en gros dans la compagnie depuis des années et qui travaillaient aussi parce qu'ils avaient des enfants, qui galéraient à maintenir leur vie de famille et qui... Voilà, il y avait beaucoup de gens qui racontaient aussi leur divorce, leurs difficultés, y compris avec leurs enfants, à maintenir des liens. On compte pas du tout ses heures et on travaillait beaucoup, beaucoup d'heures. En fait, on disait, voilà, il y a 15 jours où on travaille et 15 jours on est à terre, mais les 15 jours où on travaille, c'est vraiment comme si on travaillait quasiment tout le temps. Ça faisait sans doute pas beaucoup à l'heure, mais ce qui nous intéressait, c'était le solde total. Les expériences où on réembarquait sur ces 15 jours, ce qui s'appelle doubler, ça permettait vraiment d'engranger un salaire 2 fois plus important. Mais par contre, c'était vraiment hyper fatigant.
On n'imagine pas toute l'organisation que ça peut être de faire du nettoyage. Comment il faut être organisé, comment il faut être précis, attentif. En fait, c'est quand même c'est très exigeant quand même comme travail. Et pourtant, c'est peu valorisé. On te dit pas bravo, vous êtes super organisé, c'est un excellent travail, vous êtes précise, efficace. On dit pas ça forcément facilement aux personnes qui font du nettoyage. Ça va plutôt être réservé à d'autres métiers. Mais c'est vrai que c'est pas les premières choses qu'on dit dans le quotidien. On parle pas souvent de la femme de ménage qui va faire et les compétences qu'elle met chaque jour en application quand elle fait son ménage.
L'invisibilité sociale de ces métiers permet qu'il n'y ait pas de reconnaissance des compétences qui sont nécessaires pour les accomplir, et donc permet de garder des très faibles salaires et de garder aussi ses salariés au bas de l'échelle du marché du travail et de faire en sorte qu'ils soient le plus interchangeable possible. Donc ne pas valoriser un métier rime toujours avec le fait de ne pas le considérer aussi du point de vue salarial et des compétences qui peuvent être reconnues comme un lien avec ce métier. Je m'appelle Christina Nisoli, je suis sociologue du travail. Le fait de travailler en contact direct avec la saleté crée un stigmate sur ces personnes qui sont donc méprisées socialement du fait de leur profession. C'est-à-dire que ce n'est pas une profession valorisée justement du fait que c'est un lien constant avec la saleté. Et on voit à l'œuvre aussi des sortes de hiérarchies au sein de ce monde du nettoyage qui se recoupent avec une racialisation aussi de cette main-d'œuvre. Les métiers du nettoyage plus en lien, enfin, qui s'éloignent plus de la saleté, par exemple ceux qui sont en lien plus avec une clientèle, un public, on verra plus de personnes, des salariés blancs ou blanches, et on voit des salariés plus racisés d'un point de vue social, donc les personnes noires, plus travailler plus en lien avec la saleté. C'est-à-dire on met dans des postes plus visibles des personnes blanches, par exemple qui peuvent venir d'Europe de l'Est, plutôt que des personnes socialement considérées comme noires.
Corsica Linea, c'est plutôt une compagnie raciste. Elle ne va pas embaucher des personnes issues de l'immigration à proprement parler. Là, les personnes qui sont engagées, en général, c'est des fils d'eux, d'anciens titulaires de double nationalité française et sénégalais. Donc, ça va être le fils, le petit-fils, le cousin. Et donc, c'est plutôt une chance d'être dans le système. Mais c'est rare qu'une personne lambda immigrée soit embauchée, quoi. En fait, c'est soit des Corses, soit des Blancs. Sinon, c'est dans les nouveaux recrutements, t'avais pas de personnes noires. Ben, y avait déjà une différence de traitement au niveau des postes de travail. On allait demander plus facilement à faire du nettoyage que personne voulait faire aux personnes noires, par exemple. Il y a eu beaucoup de mots racistes. Enfin, il y avait quand même une ambiance générale raciste. Corsica Linea, ils font des trajets sur la Corse et des trajets sur le Maghreb. Les trajets sur le Maghreb, il y avait quand même moins d'attention qui était faite pour l'accueil des passagers. Alors dans l'ensemble, non, parce qu'on essayait d'avoir quand même une qualité de service. Par exemple, moi, je vais faire pareil ma cabine, que ce soit pour aller sur le Maghreb ou pour aller en Corse, quoi. J'avais pas de différence de travail. Mais par contre, la pression, elle était plus intense quand on allait en Corse que quand on allait au Maghreb. Le discours qui émanait aussi des personnes sur les passagers pouvait être raciste. En fait, les Corses, c'est considéré que c'était des touristes qui allaient en Corse. Ceux qui allaient à Tunis, c'était des, entre guillemets, des blédards qui rentraient dans leur famille pour certains de nos chefs, quoi. Enfin, pour la compagnie en général, on va dire. Et donc, du coup, c'était différence de traitement en fonction des passagers aussi.
Je pense que ça peut être difficile pour certaines personnes de témoigner parce que s'ils espèrent une titularisation, ben, ça peut vraiment contrevenir directement à leur projet puisque je pense que ce qui est attendu des employés par la compagnie, c'est pas du tout de se plaindre de ces conditions de travail. Je me rappelle que nos chefs de service nous avaient dit « si vous avez des problèmes... allez voir vos responsables syndicaux », mais en fait c'était évidemment une blague puisque c'était eux les responsables syndicaux. Donc je pense que pour les saisonniers c'est très difficile de parler parce qu'en fait ils sont toujours sur la menace de ne pas être renouvelés, de ne pas pouvoir continuer. Et bon, moi au contraire, voilà, c'est une expérience qui est restée circonscrite à quelques années et depuis je suis passé totalement à autre chose, donc c'est pour ça que je me sens pas menacé, disons, de témoigner sur le sujet.
Quand on invite à bien vouloir débarquer par l'arrière du navire en empruntant l'ascenseur ou l'escalier qui se trouve à l'arrière du navire après le bar. Pour les passagers, on t'invite à garer au pont 1 et au pont 3 avant. En empruntant l'ascenseur ou l'escalier qui se trouve à l'avant du navire à côté du bureau information. Les passagers piétons sont invités à bien vouloir débarquer par l'arrière du navire.
le métier il est pas super, il est pas gratifiant. Tes chefs d'équipe ils sont très exigeants avec toi sur les horaires, sur le nettoyage. Ça met la pression. Il y a des fois où tu peux avoir mal au ventre hein, de pas avoir fini tes cabines en temps ou d'avoir une inspection qui se passe mal.
C'était un boulot certes très difficile, à tort considéré comme un travail non qualifié, alors que c'est, moi j'ai vraiment vu des champions, une sorte d'as du ménage. En même temps, vraiment une grande découverte, un univers à part entière très original et avec des amitiés qui se nouent très fortes le temps de la traversée. En fait, on croise tout le temps les mêmes personnes, on vit des choses assez fortes, assez éprouvantes ensemble.
Il y a beaucoup d'exigences, mais je pense que c'est peu valorisé.